Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir à la diversité sur les scènes d'opéra. À l'ordre du jour ce soir, diversité à l'opéra, le modèle français fait-il de la résistance? L'article est tombé à point pour pimenter les discussions de repas de Noël. Le 25 décembre, Le Monde publiait une enquête d'Élise Carlin qui expliquait au public profane que couve depuis plusieurs mois une révolte quant au recrutement et à la visibilité des danseuses, danseurs et musiciens noirs ou métis sur la scène de l'Opéra de Paris. Dans cet article, le nouveau directeur de l'Opéra, Alexander Neff, imagine qu'il faudra sans doute supprimer certaines œuvres du répertoire tant elles portent en elles des schémas raciaux d'autres siècles. Immédiatement, Le Figaro et Valeurs Actuelles s'emportent en imaginant que La Bayadère, Le Lac des Cygnes ou Casse-Noisette pourraient disparaître des scènes de l'Opéra de Paris. On parle alors dans ces articles d'orthodoxie diversitaire et de propagande inclusiviste. Quelques semaines après, un texte qui a été écrit en interne et qui datait du mois d'août est titré de la diversité raciale à l'Opéra de Paris, eh bien Alexander Neff avait décidé lui-même de commander un rapport sur la diversité au sein de ce même opéra. Ce rapport devrait d'ailleurs lui être remis dans les jours qui viennent, avant publication, peut-être un peu plus tard. Nous avons rassemblé autour de ce micro trois acteurs importants de ce débat. D'abord Alexander Neff, merci d'être ici.
Bonsoir, merci de nous avoir ici ce soir.
Merci, vous êtes donc directeur général de l'Opéra de Paris. Isabelle Barberis, bonsoir.
Bonsoir Emmanuel.
Vous êtes maître de conférence et habilité à diriger des recherches en art du spectacle à Paris 7 et vous avez participé à cette polémique en étant interviewé entre autres par Figaro Vox et puis avec nous Binkadi Emmanuelier, bonsoir.
Bonsoir Emmanuel.
Vous êtes en studio avec moi, vous êtes chef de projet événementiel en charge des relations publiques à l'AROP. L'AROP c'est l'association pour le rayonnement de l'Opéra de Paris et vous êtes justement co-auteur du manifeste dont je parlais à l'instant, de la question raciale à l'Opéra de Paris.
La danse classique est un milieu très fermé, très élitiste, qui n'est pas vraiment accessible. Et les institutions de ballet sont censées incarner des valeurs d'égalité, de respect, de talent. Mais en réalité, sous couvert de toutes ces traditions, elles véhiculent surtout des idées racistes. Le message qu'elles envoient à l'opinion publique, c'est qu'une femme noire n'a pas sa place dans un corps de ballet. Moi, j'estime que le ballet doit refléter la société et il doit représenter chacun d'entre nous. Et je ne souhaite pas qu'on m'ôte le droit d'être la personne que je suis.
Un extrait de l'entretien qui a été accordé à Brut par la danseuse Chloé Lopez-Gomez, qui n'est pas à l'Opéra de Paris, mais qui est danseuse au Staatsballet de Berlin. C'était fin décembre sur les réseaux. Alexander Neff, vous-même, qui avez fait votre formation d'histoire, d'ailleurs, je crois, à Tübingen, qui ensuite avait œuvré à la fois aux États-Unis, c'était du côté du Nouveau-Mexique, à Santa Fe, mais également à Toronto, au Canada, et qui est revenu tout récemment, puisque vous êtes revenu en avance par rapport au mandat qui vous était donné pour diriger l'Opéra de Paris. Est-ce que vous attendiez un début de mandat de ce type?
Bon, pour beaucoup de raisons, pas nécessairement. Après, je veux dire, la démarche, l'approche du collectif de danseurs en choristes et administratifs de l'Opéra, je l'ai accueilli avec bienveillance, je veux dire, parce que c'est un groupe du personnel qui voulait effectivement établir un contact avec un directeur. Et à l'époque, j'étais censé d'arriver un an plus tard, hein, quand nous avons eu le premier contact. Ouais. Alors, c'était vraiment, en fait, je veux dire, une démarche d'urgence. Mais c'est vraiment, il s'agissait d'établir un contact et commencer à discuter ce sujet en vue d'une prise de fonction à l'été 2021.
Plus tardive, effectivement. Et donc, voilà. Vous êtes arrivé plus tôt, après le départ de Stéphane Lissner, qui vous précédait.
Après, tout s'est accéléré au cours de l'été et nous sommes aujourd'hui. Je suis effectivement très content que nous pouvons évoquer ce sujet avec nos salariés, puisque pour moi, un théâtre, surtout un théâtre national, avec une mission de service public, doit être un lieu de débat, d'échange et de réflexion
Alors,
sur les grands thèmes de la société.
absolument. De votre côté, qu'a dit Emmanuel Lié, qu'est-ce qui vous a poussé avec d'autres à écrire ce texte, donc cette pétition, ce texte qui a été envoyé à 1 500 personnes tournant autour de l'Opéra de Paris, participant à l'Opéra de Paris, et 300 d'entre eux ou d'entre elles l'ont signé finalement, sur la diversité raciale à l'Opéra de Paris. Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Est-ce que c'est, comme le dit l'article du Monde que je citais au début, le mouvement Black Lives Matter, cette idée de se retrouver dans un moment mondial d'une certaine façon, où la question de l'égalité des droits était présente? Qu'est-ce qui vous a poussé?
Absolument. Cette démarche, elle est née dans un contexte très exceptionnel qui était à la fois le contexte du confinement. On a eu beaucoup de temps, l'opéra était en pause, donc pour réfléchir, un temps d'introspection, et puis le contexte effectivement de mouvements Black Lives Matter, dont le rayonnement médiatique a vraiment couvert toute la planète et a poussé de nombreuses institutions et de nouveaux individus à se poser cette question de leur rapport à la diversité, de la question des discriminations. Et forcément, nous, en tant que personnes de couleur, en tant que personne non blanche, en tant que personne métisse, pour le coup, les danseurs et moi, nous avons tous un parent noir et un parent blanc. Ça n'a rien réveillé, parce que ces choses-là, depuis sont très longtemps, sont présentes depuis très longtemps dans nos esprits, dans
Et ça
notre
fait fusionner
expérience.
des idées.
Absolument. En fait, on en a parlé ensemble. On a vraiment eu cette réflexion ensemble, des discussions qu'on n'avait pour certains jamais eues. Et on s'est dit que peut-être qu'il nous appartenait à nous, en tant que premiers intéressés, de prendre la parole sur ce sujet.
Vous étiez une poignée au départ. Enfin, vous êtes une poignée.
Oui, on
Il
est
y
8,
a Guillaume
exactement.
Diop, Awa Johanné, vous-même, Isaac Lopez-Gomez, Laetitia Galloni, Christian Bongungu, et puis deux ou trois autres, c'est cela?
Absolument.
Voilà. Et Isabelle Barberis, vous êtes donc spécialiste en art du spectacle. Vous êtes très vivement emportée dans un entretien que vous avez donné tout de suite après la publication de cet article du Monde au Figaro Vox. C'est vous que je citais à propos de la propagande inclusiviste. Vous avez été très dur vis-à-vis de cette initiative, vis-à-vis même de cette idée donc de lancer cette sorte d'audit sur la question de la diversité à l'Opéra de Paris. Qu'est-ce qui vous a choqué? Vous avez fait le rapprochement avec d'autres mouvements, une autre enquête que vous êtes en train de mener?
Oui, bien sûr, j'ai fait le rapprochement avec un discours qui s'est désormais académisé à la tête de grandes institutions culturelles, parce que ce que j'y vois, si vous voulez, c'est qu'on parle de diversité, mais de quelle diversité, de quelle conception de la diversité va-t-on parler? Ce que je constate depuis le début de mes travaux sur cette question, c'est qu'il n'y a pas de vrai travail de réflexion qui soit véritablement pluraliste. Je ne vois pas véritablement, par exemple, de pluralisme dans l'audit qui a été commandé.
Et dans les, Alors, moi, un audit qui a été commandé à Constance Rivière, il faut préciser, et l'historien Papendiaï, qui sont tous les deux, et qui, je crois, ont interrogé 90 à 100 personnes en tout depuis le début du mois de septembre, dans ce rapport qui va être rendu bientôt. Je précise pour les auditeurs.
Tout à fait. Et Papendiaï qui avait, par exemple, condamné le blackface des suppliantes. Moi, je ne me fonde, si vous voulez, que sur les éléments que j'ai, c'est-à-dire le manifeste, ainsi que le reportage qu'il y a dans le Monde. Et j'y vois au moins deux formatages. Voilà. Donc,
Lesquels?
Le premier formatage, c'est Alors, le premier, c'est l'inclusivisme, qui provient de la sphère culturelle anglo-saxonne, mais surtout du marketing publicitaire, et aussi de la cybernétique, hein, depuis les années 30, et qui est une manière, parmi d'autres, de concevoir la diversité qui se fonde sur des catégorisations assez sommaires. Et à mon sens, il faut faire de la résistance à cette fausse diversité marketing au nom d'une diversité universaliste. Je pourrais y revenir. Et le deuxième formatage qui vient se greffer dessus, c'est le décolonialisme. Hein, tous les éléments sont présents, qui exploitent cette première couche idéologique et se fondent sur un ressentiment à l'égard du passé, sur le discours victimaire à travers un perspectivisme sans complexité et qui joue sur le paternalisme, alors c'est très paradoxal, hein, du supposé dominant, et l'enfermement dans la prison identitaire du supposé dominé. Et ce que je voudrais rajouter, c'est que le décolonialisme, il y a des liens factuels sur lesquels j'ai travaillé, avec le frérisme, avec le séparatisme, avec les indigènes de la République, par exemple dans l'association Décoloniser les Arts, qui a été fortement mise en avant dans cette campagne sur la diversité à l'Opéra de Paris, que l'Opéra de Paris a légitimé, dans son discours et qui fait de l'entrisme. Donc ça suscite effectivement...
Là, ce sont des accusations. Il faudrait que vous puissiez les prouver tout de même de cette question d'entrisme, etc. etc. parce que là, est-ce que vous avez des preuves de, pour pouvoir dire justement que toutes ces questions-là sont, entre guillemets, manipulées, Isabelle Mermeris, parce que c'est ce que vous semblez dire.
Oh, oui, bien sûr. Il y a toute une campagne de décoloniser les arts. Enfin, ça fait très longtemps que décoloniser les arts, je les connais depuis longtemps.
Décolonisons les arts, je crois.
Décoloniser les arts, l'association. Ah. Hein, l'association s'appelle Décoloniser les arts. Il y a une émission sur France Culture sur le harcèlement racial à l'Opéra de Paris. Cette association...
Et ça, vous le... Et ça, vous le niez, ouais. qu'il puisse y avoir du harcèlement racial, par exemple, ou ces questions-là?
Ah, le concept même de harcèlement racial, oui, c'est une nouvelle, en fait, c'est un nouveau concept qui a été complètement forgé.
On vous entend de très loin. Alors justement, Macadie Emmanuelier, oui. Et puis ensuite Alexandre Neuf, qui est donc effectivement directeur général de l'Opéra de Paris. Macadie Emmanuelier.
Absolument, pour en fait aussi refaire un point sur tous ces termes qui sont utilisés et toute cette question. J'entends beaucoup de termes idéologiques, c'est très recherché, c'est très académique, c'est très scientifique. Il faut savoir que cette démarche, et aujourd'hui, si je suis là sur ce plateau, c'est aussi pour apporter ce témoignage, cette démarche, elle part d'une expérience de vie. Elle part d'une expérience de vie de personnes qui ont cette couleur de peau dans une institution dans laquelle ils travaillent, certains depuis 20 ans, que ce soit moi ou que ce soit les danseurs de l'Opéra de Paris qui ont signé ce manifeste, nous sommes de purs produits de l'Opéra de Paris. Les sujets que l'on met en avant sont des sujets que l'on a expérimentés, qu'on a vécu, c'est des phrases, c'est des attitudes, c'est un regard finalement qu'on a porté sur notre propre institution, et ce n'est pas une démarche destructrice, c'est une démarche qui est au contraire créatrice. On est là pour porter notre institution plus loin. On aime cette institution. On aime y travailler. On a plaisir à y travailler. On y dépense beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'amour et de passion. Et on a envie que cette institution progresse sur des thèmes sur lesquels on considère qu'elle est encore aujourd'hui en retard.
Alexandre Neuf, vous êtes trouvé confronté dans d'autres institutions semblables à ces questions-là. Est-ce que ce sont des questions qui naissent, disons, depuis un certain temps dans d'autres lieux de spectacle, que ça soit en Allemagne que vous avez fréquenté, aux États-Unis ou au Canada, ou qui sont relativement récentes? Je rappelle que vous avez travaillé aux côtés de Gérard Mortier aussi à l'Opéra de Paris il y a quelques années, donc vous connaissez très bien cette institution.
Je connaissais à l'époque l'institution, après je suis parti pendant 12 ans, il y a des choses qui ont changé, et là je pense qu'on est vraiment en train d'essayer de progresser sur le sujet de la diversité. Je vais revenir au terme utilisé par Isabelle Berberis, effectivement, et souligner ce qu'a dit Emmanuelier, nous ne sommes pas dans une démarche nécessairement théorique, académique, mais dans une démarche plutôt pratique, puisque moi, comme directeur de théâtre, ce qui m'intéresse, c'est faire marcher mon théâtre avec les artistes et le public. Effectivement, on avait commandé cette réflexion. Je vais aussi souligner, on n'a même pas encore reçu le rapport.
Il devrait arriver quoi, à la fin de la semaine? Il devrait arriver à la fin de la semaine ou au début de semaine prochaine, quelque chose comme
ça. Il devrait arriver dans les prochains jours. Alors vraiment, on est tout au début d'un processus de réflexion, d'échanges et de débats qui n'a pas un résultat prédéfini, je veux dire. On n'a pas commandé un rapport pour confirmer ce qu'on pensait de savoir déjà. Je pense que c'est très important qu'il y ait un résultat qui est attendu. C'était aussi très important pour nous de confier ce rapport à des personnes extérieures à la maison, pour donner un peu plus de liberté d'expression aux gens qui étaient interviewés.
Il faut dire d'ailleurs que les gens qu'ils ont interviewés ne sont pas que des gens de l'Opéra de Paris. Je crois qu'ils ont été interviewés et auditionné des gens un peu partout, en Europe ou ailleurs, mais également des directeurs d'institutions culturelles qui ne sont pas des maisons d'opéra, pour pouvoir un peu donner une ampleur un peu plus large à cette question que de la centrer simplement sur l'Opéra de Paris, je crois, Alexandre Neuf.
C'est correct, parce que nous avons souhaité effectivement de pouvoir disposer d'un contexte sur le sujet qui nous aiderait à trouver des solutions qui sont propres à l'Opéra de Paris, parce que pour moi, c'est aussi très, très important. Et il ne s'agit pas d'importer des concepts de diversité des autres institutions, même des autres pays. Il s'agit effectivement, avec cette réflexion que nous avons commencé à mener, et qui, encore une fois, n'est pas aboutie aujourd'hui, de trouver des solutions propres à notre institution. Mmh.
Isabelle Barberis, dans l'article que vous avez confié, l'entretien que vous avez confié à Figaro Vox, vous parliez d'idéologie du ressentiment. Vous imaginiez effectivement, et c'était ce qui se disait tout de suite avant le démenti qu'a apporté Alexandre Neff, ayant beaucoup de gens ayant pas tout à fait compris ce qui était dit dans l'article du Monde, que certaines œuvres du répertoire les plus traditionnelles, pourrait-on dire Casse-Noisette, La Bayadère, etc., seraient peut-être rayées du répertoire. Ça n'est visiblement pas le cas. En tout cas, Alexandre Neff pourrait nous le confirmer. Ça n'est pas son intention a priori. Qu'est-ce qui vous choque dans cette démarche après ce que vous nous avez dit dans un premier tour de table?
C'est que l'expérience dont a fait état par exemple monsieur Yé soit récupérée par une idéologie inclusiviste et décoloniale, et dans cette audite sans ouverture, puisqu'il est question d'ouverture sur d'autres approches de la diversité, par exemple.
Qu'est-ce que vous appelez les autres approches?
La diversité universaliste, celle qui se préoccupe de mixité sociale et esthétique. Or, le répertoire de l'Opéra de Paris, puisque c'est de bien de cela dont il est question, est extrêmement divers. Il doit bien sûr s'enrichir de façon à s'ouvrir effectivement à de nouveaux recrutements. Mais il incarne déjà cet universalisme. Hein. Béjart, Liffard ont déjà ouvert les possibilités plastiques de la danse de ballet. Et par exemple, dans l'article du Monde, il m'apparaissait de très mauvaise foi d'opposer ce qu'on appelle le ballet blanc à la diversité colorisée, d'autant que le ballet blanc, dont le parangon, par exemple, c'est Gisèle, repose sur un système de codification romantique.
Qu'est-ce qu'on appelle le ballet blanc pour des gens qui ne connaissent pas
le... C'est par exemple le ballet romantique, Gisèle, avec des figures spectrales comme les Willis, qui sont blanches, qui n'a rien à voir avec le colonialisme, et qui représente aussi un système de, enfin qui est emblématique d'une représentation du groupe de manière uniforme que l'on n'a plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut de la bigarrure, ce qui peut aussi être lassant. Hein. Il peut produire une esthétique Benetton extrêmement répétitive.
Est-ce que je pense vous y allez carrément évoluer, l'esthétique Benetton, c'est oui, vous y allez carrément.
C'est aussi répétitif, tout autant que l'uniformité. Et on peut évoluer sans détruire, sans créer de fausses oppositions, par exemple avec le ballet blanc. Et on peut aussi, ce qui me semble important, ne pas confondre la désuétude, les codifications anciennes. La désuétude, c'est un processus naturel avec une forme de criminalisation, pardonnez-moi, rétrospective. Vous voyez, voilà.
Vous dites généralement qu'il fallait, il faut réfléchir tout de même à cette question, qu'a dit Emmanuel Lié, en se disant que, il s'agit pas de casser le modèle à la française, parce que c'est ce qu'on a vu dans beaucoup d'articles, que ce modèle à la française, il a été à un moment désuet, comme le disait à l'instant Isabelle Barberis, qu'il a été rénové au long du 19e, au long du 20e et même au tout début du 21e siècle, et qu'il s'agit juste de faire en sorte qu'il évolue avec son temps, c'est cela ?
Oui, bien sûr. Moi, ce qui m'a interrogé lorsque vous m'avez invité à cette émission et avec le titre de notre débat aujourd'hui, c'est effectivement cette notion de modèle français. Qu'est-ce que c'est le modèle français aujourd'hui? En tout cas, moi, ce que ça m'évoque, le modèle français, c'est effectivement, premièrement, cette notion de modernité. En 2019, l'Opéra de Paris a célébré ses 350 ans. Le slogan de cette célébration, c'était « Moderne depuis 1669 ». L'Opéra de Paris, c'était une maison d'art vivant, c'est une maison qui a pour mission de préserver un répertoire qui est ancien, mais aussi de faire vivre, de faire survivre ce répertoire. Et pour ça, effectivement...
Il faut l'adapter.
Exactement, il y a des modernisations. On parlait du lac des Cygnes, on a beaucoup parlé du lac des Cygnes dans la presse, alors qu'effectivement, ce n'était pas le sujet, et ça ne l'a jamais été, et de toute façon, ça a été démenti de manière très claire. Mais le lac des Cygnes, par exemple, que l'on joue aujourd'hui, c'est un lac des Cygnes qui a été rechorégraphié, recréé en 1984 par Rudolf Nureyev. Et à l'époque, ça avait fait scandale, les danseurs s'étaient mis en grève, et Rudolf Nureyev avait changé les costumes, avait changé la décoration, avait même changé dans le texte, dans le sous-texte de cette œuvre, lui avait donné un espèce de caractère freudien. On avait remis le personnage masculin au centre de l'intrigue, avec des intrigues de désir, des relations de désir entre ce fantasme de femme cygne et de son précepteur, etc. Des sujets qui étaient très finalement dans l'air du temps, qui parlaient aussi au public. Et je pense que c'est ça la magie et la valeur de l'opéra aujourd'hui. Ce qui fait son exception et sa beauté, c'est que on est capable de mêler la culture et la préservation d'une tradition, mais aussi de parvenir à remettre les œuvres dans leur actualité.
Alors, parmi les œuvres qui font débat, visiblement, il y a la Bayadère, à laquelle s'était attaqué Benjamin Millepied il y a quelques années. Effectivement, un extrait de la Bayadère.
France Culture. Le temps du débat. Emmanuel Laurentin.
Un extrait de la Bayadère, une musique de Léon Vincus. Alexandre Neff, dans ce débat autour de modèle français, y a-t-il un modèle français de l'opéra et une résistance française à cette question de la diversité, quel rôle joue justement cette Bayadère et pourquoi est-ce qu'elle est importante dans notre discussion?
Bon, écoutez, je veux dire, ce qui est important, on vient de la donner. Cette Bayadère. Et je pense qu'elle est toujours disponible sur notre plateforme.
Et d'ailleurs, cette plateforme que vous venez de lancer et qui, je crois, a eu un certain succès.
Alors, je veux dire, c'est le premier témoignage qu'on n'a pas envie de supprimer ces œuvres, mais qu'on a bien envie de les donner avec les artistes d'aujourd'hui pour un public d'aujourd'hui. Parce que pour parler un peu de la tradition, je pense effectivement la tradition est importante. Le patrimoine que nous gérons à l'Opéra de Paris est riche et varié, et ça nous tient à cœur. Mais d'une certaine façon, dans le spectacle vivant, la tradition, c'est toujours une fiction. Parce qu'on ne peut pas recréer ces œuvres avec des gens, même de la création de ce ballet précis. Ils ne dansent plus. Et il faut bien trouver des artistes d'aujourd'hui qui s'enthousiasment pour ces œuvres, pour les réaliser. Après, pour moi, c'est pour garder vivant le spectacle vivant. Il faut aussi être prêt à se confronter à des questions comme le maquillage, par exemple, et certains stéréotypes culturels qui, aujourd'hui, ne peuvent plus correspondre à nos sensibilités. Je ne trouve pas ça choquant. C'est plutôt une approche encore plutôt pratique pour garder le spectacle vivant, justement vivant. Et je pense que ce que l'approche du collectif qui a écrit le manifeste il y a quelques mois témoigne, c'est un grand attachement, un amour pour ce répertoire. C'est un désir d'appartenir à ce répertoire, à mon avis.
Isabelle Barberis, la question du blackface, vous l'avez évoqué lors de votre première intervention, c'est cette question effectivement du maquillage qui fait que des acteurs, quand c'est du théâtre, ou des danseurs noirs ou métis doivent doivent être maquillés en noir lorsque les rôles sont des rôles supposément justement de couleur. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que vous pensez justement que cette question-là est une question très importante, qu'il ne faut continuer la tradition, ou au contraire qu'on peut imaginer d'autres solutions pour des Othello, par exemple, ou pour d'autres œuvres de ce type?
Je pense, moi je suis pour rester ouvert à toutes les formes d'expérimentation parce que j'aime le spectacle vivant. Et c'est ce qui me pose problème quand l'incrimination abusive hein, pour blackface, yellowface, brownface, tout à fait caractéristique de la mise en perspective des coloniales. Par exemple, je vais prendre l'exemple de Pietrushka, ce ballet dans lequel le méchant est joué par le personnage du mort. Qu'est-ce qui serait raciste de le faire jouer par un danseur blanc, donc incrimination de brownface, ou un non-blanc? Dans ce cas, on va dire que les non-blancs ont systématiquement le mauvais rôle. Donc moi, je crois qu'il faut retrouver un peu d'innocence et de subtilité pour laisser ouvert toutes les expérimentations, ouvrir effectivement les répertoires et les recrutements. Par exemple, dans le cas du ballet blanc que je mentionnais, il faut que la reconstitution historique, patrimoniale, si vous voulez, coexiste avec toutes les expérimentations, avec jeux de maquillage, de costumes, en tenant compte aussi de la sensibilité individuelle des danseurs de toutes origines.
Voilà. Est-ce que vous pensez
Et ça pose aussi la question des limites, des limites du discours décolonial, voilà, qui est précisément sans limite.
Est-ce que vous pensez, comme un autre des auteurs qui s'est exprimé dans Le Figaro, qui s'appelle Mathieu Boccoté, qu'on connaît bien de ce côté de l'Atlantique, mais également de l'autre, que l'Opéra de Paris ne ferait que mimer les manies nord-américaines? C'est ce qu'il écrit depuis son balcon québécois.
Ah oui, je pense qu'on est en train d'importer une conception anglo-saxonne de la diversité qui a droit au chapitre, mais qui ne laisse pas place dans le débat à la conception universaliste que j'ai essayé de développer.
Oui. Sur ce point, ben, qu'a dit Emmanuel Lié, les œuvres en question, vous considérez qu'elles doivent être continuées à être montées par l'Opéra de Paris? Ça ne vous pose pas de problème a priori? Simplement, c'est autre chose qui est en jeu. C'est donc la question de la représentativité, du recrutement, de la capacité d'ouvrir le plus grand les portes de l'opéra à des gens qui viennent de toutes les origines.
Bien sûr, là aussi, je pense qu'il faut recentrer aussi le débat. Il faut recentrer sur finalement les propositions qui avaient été faites, non pas pour imposer une vision, pour se scandaliser, mais pour ouvrir la discussion, pour que toute personne puisse donner son avis et qu'on puisse enfin discuter de ces sujets. Je vais juste revenir.
C'est ce que vous faites avec Isabelle Berberis ce soir.
Exactement. Je vais revenir rapidement justement sur le contenu de ce manifeste, parce qu'on s'est beaucoup focalisé sur la suppression des œuvres de Nourieff. On se focalise beaucoup sur des sujets, mais au final, qu'est-ce qui était dans ce texte qui était très clair, qui était très argumenté et qui était fait pour inviter au débat? Il y avait quatre points principaux. Le premier point, c'était effectivement, pour notre sujet de blackface, la question des pratiques héritées d'une époque effectivement coloniale, d'une époque esclavagiste, avec en particulier la question du blackface, la question de certaines appellations. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était la question du matériel, c'est-à-dire que les artistes qui ne sont pas blancs puissent avoir à leur disposition du matériel qui est adapté à la couleur de leur peau, à la texture de leurs cheveux, avoir pour les filles des collants chair qui correspondent à la couleur véritablement de leur chair. Le troisième point, c'était la question effectivement de la lutte contre les propos et les agissements discriminatoires, racistes, mais en fait de tout ordre, sexistes, homophobes, pour que des propos qui sont tenus dans l'enceinte de l'opéra ou par les personnes, des salariés, ou des propos qui sont tenus par le public ou par le donateur, puissent ils interviennent, qu'on puisse avoir une réaction de l'administration pour ne pas laisser ces choses.
Mais cela, la loi, par exemple, la loi générale dans la société française peut s'appliquer dans l'enceinte de l'Opéra de Paris. Il n'y a pas d'extraterritorialité.
Au-delà de la loi et de la notion de sanction, etc., c'est aussi que c'est de cette discussion qu'on avait eue au mois de mai étaient ressortis des propos qui étaient tenus parfois même publiquement devant beaucoup de monde sans que personne finalement ne vienne recadrer des gens en disant on ne dit pas ce genre de choses. Et le quatrième point, effectivement, c'était cette question de la diversité à l'Opéra, de l'inclusivité, de la représentativité, notamment des corps artistiques par rapport à la société française, pour laquelle nous n'avons évidemment pas de solution, sinon on aurait déjà fait les changements nécessaires, mais nous on appelait justement la direction à ouvrir une réflexion pour voir comment on peut s'améliorer. C'était quatre points, c'est très clair, et il n'y a pas de place là-dedans pour des demandes de suppression de telle ou telle chose. C'était pas du tout le propos, et cette démarche, depuis tout le début, était une démarche de mesure. On mesure les mots que l'on met dans ce texte et on invite à la discussion.
Ouais, alors justement, est-ce que vous avez Alexandre Neff commandé dans ce rapport que vous avez fait, rédigé par Constance Rivière et Papendia, qui sont au travail encore, parce qu'il n'a pas été encore rendu, mais il le sera dans les quelques jours qui viennent. Est-ce que vous avez fait travailler, justement, ces deux rapporteurs, qui ont, je l'ai dit, interrogé plusieurs dizaines de personnes, près d'une centaine de personnes, sur ces questions justement qui sont posées à l'instant même par Benkadi Emmanuelier.
Oui, bien sûr. Moi, ils ont eu connaissance du manifeste. Évidemment, ils ont échangé avec les auteurs du manifeste et avec beaucoup d'autres personnes, comme vous le dites, justement pour, encore une fois, nous proposer un cadre très large de la réflexion comme un début d'un processus interne à l'opéra.
Et cela, vous pensez, pour avoir fréquenté d'autres maisons d'opéra ou d'autres théâtres, par exemple, qu'il y aurait, disons, une position française particulière par rapport à d'autres endroits, une résistance, comme on l'a dit dans notre titre, particulière, ou est-ce que, tout compte fait, ce sont des choses qui ne sont pas si différentes ici que dans d'autres endroits ?
Je pense effectivement il faut trouver déjà, comme je le dis avant, notre spécificité dans le sujet, sur le sujet. Après, je veux dire, tout ce qui s'est passé depuis que l'article du Monde a été publié, les refus, les attaques, mais aussi le soutien, prouve pour moi que la démarche est juste et nécessaire, parce qu'effectivement, il y a un sujet à débattre ici.
Et ce sujet, vous pensez pouvoir, une fois que le rapport vous aura été rendu à vous et à Martin Jarry, qui dirigeait avec vous l'Opéra de Paris, vous aura été rendu, vous pensez que il pourra être mis sur la place publique, débattu ouvertement, pas simplement sur des rumeurs ou sur des on-dit, mais sur les propres termes du rapport ?
Bah, je l'espère bien, parce que ce que je regrette un peu, qu'on discute plus ou moins un rapport que personne ne connaît encore. Alors ce serait mieux, effectivement, de le faire quand on dispose du matériel.
Mais ça veut dire aussi qu'il y a un état d'esprit, des craintes, des préventions, pourrait-on dire, et des espoirs de l'autre côté, et que cela, on peut de toute façon d'ores et déjà en débattre, Alexandre Neff, puisque ça fait partie effectivement des raisons qui vous ont poussé à commander ce rapport.
Ça c'est bien vrai. C'est pour ça que nous sommes avec vous ce soir, pour effectivement alimenter ce débat. Qui, encore une fois, je trouve juste et nécessaire.
Isabelle Barberis, si ce rapport, il va être mis au jour d'ici quelques jours, reprend peu ou prou ce que vous craignez, mais aussi propose d'autres pistes, qu'est-ce que vous en penserez ? On peut pas le savoir, puisque vous ne l'avez pas eu en main comme moi-même, d'ailleurs. Mais est-ce que vous pensez que ça peut être aussi une pierre pour pouvoir avancer un peu plus loin sur ce chemin de la diversité au sein de l'Opéra de Paris?
Bien sûr, je le lirai avec la plus grande attention, en espérant qu'il n'y aura pas d'entrée possible pour cette mise en perspective décoloniale qui est forcément liée à des mécanismes de réécriture et de cancel culture.
Mais c'est ce qu'on vous dit à l'instant. C'est quand Benkadi Emmanuelier vous dit non, on n'a pas l'intention de supprimer.
Mais bien entendu, non, mais j'entends tout à fait le discours d'ouverture de Monsieur Yeh puis de Monsieur Neff. Et ça me semble aussi pointer une distinction très importante à faire entre d'un côté l'idéologie décoloniale et de l'autre côté le traitement des discriminations. On a déjà parlé de l'ouverture à la fois des répertoires et des recrutements, qui me semble être une bonne chose. Mais ce qui me semble valable, c'est une réflexion subtile en interne sur les cas de discrimination. C'est les cas de discrimination que M. Yeh a énumérés à l'intérieur d'une relation pédagogique apaisée, sans criminalisation. Et je trouve que, le reportage paru dans Le Monde était une très mauvaise publicité, montrant bien la manière, dont on fait du marketing, de la communication avec le décolonialisme, et qui risque d'accentuer les clivages et les tensions dans les relations maître-élève, entre les danseurs, et dégrader la relation pédagogique. C'est une de mes craintes, en tout cas.
Oui, Benkadi Emmanuelier.
Bah pour le coup, moi, je me félicite plutôt de cet article qui, je trouve, est retient assez bien la démarche, retranscrit bien aussi les propos. Effectivement, il y a certaines tournures qui ont du coup été interprétées d'une certaine façon, mais voilà, l'histoire est terminée maintenant. Non, moi ce que je veux dire, c'est que effectivement cette démarche, c'est avant tout une démarche de réflexion. Notre but, c'était de soulever le débat, de lever le tabou, de briser le silence. C'était vraiment ça, et ça a vraiment été le fil rouge de toute cette démarche, cette discussion. C'est une discussion qu'on a eue dans un premier temps avec la direction, quand on leur a exposé notre démarche, on a discuté avec eux, on a rencontré effectivement pour la première fois Monsieur Neff, mais également Aurélie Dupont et d'autres directeurs de la compagnie qui ont écouté ce qu'on avait à dire, qui ont compris et qui, je pense, sont conscients que ce sont aussi des sujets sur lesquels il faut évoluer. Une donc première étape de discussion, deuxième étape de discussion, lorsque effectivement on a communiqué ce manifeste à l'ensemble des salariés, pour aussi que les personnes qui souhaitaient le soutenir puissent ajouter leur signature, on a invité l'ensemble des salariés de l'Opéra et de la ROP à nous envoyer leurs remarques par mail ou dans des couloirs, on se croise, on travaille dans la même entreprise, pour témoigner un soutien, pour poser des questions, demander des approfondissements ou pour dire on n'est pas d'accord. Nous, notre volonté, c'est de pouvoir en discuter enfin librement. Bien sûr, on a des positions, bien sûr, on a des vues, mais ces arguments et ces positions qu'on défend, ils sont argumentés, ils sont contextualisés, on a des faits, il y a des choses derrière qui sont solides. Je pense que le débat, il est sain quand chacune des parties peut se réunir autour d'une table et dire voilà, moi je pense ceci, parce que derrière il y a ceci, 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 parce que j'ai vu ceci, parce qu'on le fonde sur des arguments qui sont raisonnés, et pas simplement lancer soit des grandes accusations qui sont là plus pour faire polémique ou faire scandale, ou pour juste lancer des lieux communs en disant bah non, on fait pas ci ou on fait ça parce qu'on a toujours fait comme ça, je vois pas pourquoi on ferait autrement. Le but, c'est justement de dépasser ça, et je pense qu'il y a un climat sain, même si c'est un peu intense peut-être dans un premier temps parce que les esprits s'échauffent et chacun aussi se sent concerné par cette maison, c'est normal, mais je pense qu'il y a quelque chose de sain qui va en émerger.
Isabelle Berberis.
Oui, enfin non, moi je trouve ça très édulcoré par rapport à la réalité. Quand il y a des incriminations en yellow face, complètement généralisées en black face, etc., un peu lancées à la cantonade, on n'est pas du tout dans un discours évolutif et délibératif et pluraliste. Je pense aussi que la communication s'est un tout petit peu trop emparée du sujet. Je crois que Aurélie Dupont a un coach en communication.
Là, j'ai pas vérifié.
Que soit l'inclusivisme, enfin, ou bien le discours décolonial, dont j'ai essayé de montrer un petit peu l'articulation, ce sont deux choses un peu différentes. Aujourd'hui, montre comment, il y a la réflexion artistique. Et aussi sur l'ouverture des répertoires et des recrutements, mais qui est liée à une réflexion artistique et sur la mixité sociale, a pris le pas sur la communication. Voilà.
Alexander Neff, quand on commande un rapport, on a deux choix, on le met dans un tiroir et on n'en fait rien. Ce rapport de Constance Rivière et de Papendiaï que vous avez commandé, vous allez peut-être en faire quelque chose, en tous les cas, on peut l'imaginer, mais on est aussi attaqué de deux côtés. J'imagine que l'association Décoloniser les Arts, qui a refusé, je crois, de répondre à la demande des rapporteurs, eh bien, ne va pas être contente de ce qu'elle trouvera peut-être dans ce rapport, je ne sais pas. Et puis, peut-être aussi, Isabelle Barbiris continuera, ou d'autres, à critiquer votre démarche. Qu'est-ce que vous pensez, vous allez vous trouver entre deux feux, d'une certaine façon, Alexander Neff?
On s'y retrouve déjà, je pense, parce que je pense que d'une certaine façon, il y a des gens qui savent déjà que ce rapport ira beaucoup trop loin. Il y en a d'autres qui savent que il y en aura pas assez. Voilà. Après, c'est ma responsabilité, de responsabilité du directeur d'assumer les décisions qu'on va prendre suite au rapport et le climat qu'on souhaite créer au sein de l'Opéra et la relation qu'on souhaite avoir avec nos artistes et nos publics.
Et cela, effectivement, ça peut prendre du temps parce que un rapport, c'est fait en quelques mois, c'est déjà long d'ailleurs, mais il va falloir, pour mettre en application peut-être telle ou telle préconisation de ce rapport, pour en imaginer d'autres, il faudra un certain temps.
Oui, mais on n'est pas dans une démarche, comme je l'ai dit avant, de censure ou de rupture brutale. On est vraiment dans une démarche de compréhension déjà et d'évolution de l'institution comme il faut la faire évoluer en permanence. Elle a évolué depuis 350 ans. On est plutôt dans la pérennité de l'institution que dans le contraire.
Merci.
Parce qu'après, je pense qu'il ouais. y a une chose qu'il faudrait peut-être dire
brièvement.
À la fin. Brièvement, pardon. C'est aussi d'inviter à la table les gens qui sont concernés par le sujet et de leur donner la parole. Ça, pour moi, c'est très important.
Merci beaucoup à vous, Alexander Neff, d'avoir débattu avec Isabelle Barberis et avec Bincadi Emmanuelier sur ces questions de diversité à l'Opéra. C'était donc le temps du débat. Chloé Cambrelin, Imane Gilles, Fanny Richer, Rémi Baye, Hugo Boursier, à la technique Michael Simon, à la réalisation Alexandre Manzanares. Dans le temps du débat, demain, nous parlerons du projet de soldats augmentés avec cette question, la technologie peut-elle changer la guerre? Dans 3 minutes, affaires culturelles avec Arnaud Laporte qui recevra l'écrivaine Maïlise de Kirangal.